J'aimerais ce matin commencer par vous faire la lecture d'une lettre. La lettre d'un père à l'ex-fiancé de sa fille. Lettre d'un père à l'ex-fiancé de sa fille. Cher Tony, j'ai été incapable de dormir depuis que j'ai mis un terme à ton engagement avec ma fille. Voudras-tu un jour me pardonner et tenter d'oublier? J'étais bien trop sensible à ta crête d'Iroquois, à tes nombreux tatouages et à tous tes piercings dans le nez. Je réalise aujourd'hui que les motos ne sont pas si dangereuses que ça. Et je comprends beaucoup mieux la fraternité de ton gang de motards. Vraiment, je n'aurais pas dû réagir comme je l'ai fait au fait que tu sois sans emploi et dans la rue. Je suis aujourd'hui certain qu'il y a beaucoup de gens très bien qui vivent avec toi sous le pont, dans le parc. C'est vrai que ma fille n'a que 18 ans. C'est vrai aussi qu'elle a été acceptée à Harvard avec l'attribution d'une bourse pour toutes ses études. Mais elle veut t'épouser. De toute façon, tout ne s'apprend pas dans les livres, n'est-ce pas? Il m'arrive d'oublier que j'ai tendance à être vieux jeu. Sache que j'ai eu tort. Je me suis mal conduit, mais je me suis ressaisi. Et je veux te dire maintenant que tu as toute ma bénédiction pour épouser ma fille. Sincèrement, ton futur beau-père. PS, je te félicite d'avoir gagné le gros lot à l'euro-million cette semaine. Qui peut dire toute l'influence de l'argent? Qui peut dire tout ce que les hommes sont prêts à faire pour de l'argent? Qui peut dire le véritable pouvoir de l'argent dans la vie des hommes, dans l'histoire de notre monde, dans notre propre vie? Ce matin, dans le passage que nous allons méditer, nous allons constater combien l'appât du gain peut être un obstacle à l'Évangile. Nous sommes toujours dans le troisième voyage de Paul à Éphèse, de le troisième voyage missionnaire, et Paul est toujours dans la ville d'Éphèse. Éphèse où Dieu a fait de grandes choses et où beaucoup de personnes se sont tournées vers le Christ. Beaucoup ont abandonné leur idolâtrie pour se tourner vers Jésus-Christ. Éphèse où, lisons-nous, après les miracles extraordinaires dont nous avons parlé la dernière fois, prendre la main. Donc nous lisons la chose suivante. Cela fut connu de tous ceux qui habitaient Éphèse, juifs et grecs, la crainte s'empara de tous et le nom du Seigneur Jésus était magnifié. Éphèse où beaucoup se sont détournés de leurs pratiques occultes pour se tourner vers le Christ. Je poursuis la lecture. Beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient en reconnaissant publiquement leurs pratiques. Bon nombre de ceux qui avaient pratiqué les sciences occultes apportaient leurs livres et les brûlaient devant tous. On en calcula le prix et on l'estima à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que par le pouvoir du Seigneur, la parole se répandait et gagnait en force. Alors oui, clairement, Dieu était à l'œuvre à Éphèse. Beaucoup se tournaient vers le Christ, beaucoup changeaient de vie. Mais tout cela n'était pas du goût de tout le monde, et en particulier pas du goût de tous ceux qui voyaient leur gain diminuer avec toutes ces conversions. Et donc nous allons maintenant arriver au texte de ce matin qui se trouve au chapitre 19 et je commence la lecture au verset 21. Après cela, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en passant par la Macédoine et l'Achaïe. Il disait « Quand je m'y serai rendu, il me faudra encore voir Rome ». Il envoya en Macédoine deux de ses aides, Timothée et Éraste, mais lui-même resta quelque temps en Asie. En ce temps-là survinrent des troubles graves au sujet de la voie. Un orfèvre nommé Démétrios fabriquait des sanctuaires d'Artémis en argent et procurait des gains considérables aux artisans. Il rassembla ces derniers avec tous les ouvriers qui exerçaient le même genre de métier et dit « Mes amis, vous savez que notre prospérité dépend de cette activité. Or, vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule importante en disant que les dieux faits par la main des hommes ne sont pas des dieux. Cela risque non seulement de jeter le discrédit sur notre profession, mais encore de ruiner toute estime pour le temple de la grande déesse Artémis, et même de dépouiller de son prestige celle qui est adorée de toute l'Asie et de toute la terre habitée. » Quand ils entendirent cela, ils furent remplis de fureur et se mirent à crier « Grande est l'Artémis des Éphésiens !» La confusion gagna toute la ville. Tous d'un commun accord se précipitèrent au théâtre et entraînèrent avec eux les Macédoniens Gaïos et Aristarque, compagnons de voyage de Paul. Paul était décidé à se présenter devant le peuple, mais les disciples ne le lui permirent pas. Et même quelques-uns des Asiarques, qui étaient de ses amis, lui envoyèrent des messages pour le supplier de ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient une chose, les autres une autre. En effet, la confusion régnait dans l'assemblée, la plupart des gens ne sachant même pas pourquoi ils s'étaient réunis. Dans la foule, des gens renseignèrent Alexandre que les Juifs poussaient en avant. Alexandre faisait signe de la main et voulait présenter sa défense devant le peuple. Mais quand ils reconnurent en lui un juif, tous se mirent à crier d'une seule voix pendant près de 2 heures, « Grande est l'Artémis des Éphésiens !» C'est un long passage, mais on arrive au bout. Mais le secrétaire parvint à calmer la foule et dit, « Homme d'Éphèse, qui ne sait pas que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Artémis et de son emblème tombé du ciel? Puisque cela est incontestable, vous devez vous tenir calme et ne rien faire avec précipitation. En effet, ces hommes que vous avez amenés n'ont commis ni sacrilège ni blasphème envers notre déesse. Si donc Démétrios et les artisans qui sont avec lui ont un grief contre quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls qu'ils portent plainte. Et si vous avez d'autres réclamations, cela se réglera dans l'assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, car il n'existe aucun motif qui nous permette de rendre compte de cet attroupement. Après avoir dit cela, il renvoya l'assemblée. Ce matin, j'aimerais, dans un premier temps, poser les éléments du récit, puis j'aimerais voir avec vous, dans un deuxième temps, quelques applications de ce texte pour notre vie. Et c'est ainsi donc que nous commençons en posant la question « Que se passe-t-il dans notre texte ?» La première chose que nous constatons est que Paul forme des projets. Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en passant par la Macédoine et l'Achaïe. Il disait « Quand je m'y serai rendu, il me faudra encore voir Rome ». C'est ainsi que dans la perspective de son prochain départ, Paul envoie deux de ses collaborateurs en Macédoine alors que lui reste encore quelque temps en Asie, précisément à Éphèse. C'est la suite du verset 22. C'est donc à la fin des 3 ans que Paul passe à Éphèse qu'ont lieu les événements dont je viens de faire la lecture, qu'ont lieu ces troubles graves qui sont mentionnés dans notre texte. Une fois que cette situation se sera calmée, Paul va quitter Éphèse. Le verset suivant du chapitre 20 nous le dit clairement. Lorsque l'agitation eut cessé, Paul fit venir les disciples. Après les avoir encouragés, il les salua et partit pour la Macédoine. Nous sommes donc tout à la fin des 3 ans passés à Éphèse. Notons bien que les troubles dont parle notre texte ne sont pas une petite émeute en passant, mais ce sont des troubles importants, suffisamment importants pour gagner toute la ville. C'est ce que nous avons lu dans notre texte. La confusion gagna toute la ville. Notons encore, concernant ces troubles graves, ce texte que l'on trouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens, qu'il faut sans doute comprendre au sens figuré, où il est question de Paul qui a lutté contre des bêtes à Éphèse. À quoi fait-il allusion ? Certains pensent à notre récit ici. Il est aussi fort possible que ce soit un autre événement dont Luc ne dit rien dans les Actes des Apôtres. Notons enfin, concernant ces troubles graves, que jusqu'ici, l'essentiel des troubles que Paul avait rencontrés, il en a quand même rencontré plusieurs, émanait de sources juives, et en particulier des leaders, des responsables religieux juifs. Mais ici, comme à Philippe auparavant, l'opposition va venir de sources païennes. Alors pourquoi de tels troubles ? Tout simplement parce que l'avancée de l'Évangile commençait sérieusement à mettre à mal ceux qui faisaient commerce de l'idolâtrie, idolâtrie très répandue dans la ville d'Éphèse, et en particulier ceux qui faisaient commerce autour du culte d'Artémis. Notons bien que l'influence de l'Évangile dont nous parlons dépassait largement les frontières de la ville d'Éphèse. C'est en réalité toute l'Asie, l'actuelle Turquie, qui était concernée. C'est ce que nous lisons au verset 26. Or, vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule importante en disant que les dieux faits par la main des hommes ne sont pas des dieux. Nous avions vu la dernière fois que, pendant les 2 premières années de son ministère à Éphèse, Paul a sillonné en long et en large cette partie de l'Asie. Et précédemment, au verset 10, nous pouvons lire de ce même chapitre, « Tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. » On comprend donc que l'économie qui est touchée n'est pas seulement l'économie de la ville d'Éphèse, mais plus largement tout ce qui débordait et qui se trouvait autour de ce culte d'Artémis et de l'idolâtrie qui allait jusque dans le fin fond de cette province. Quelques mots maintenant sur la déesse Artémis, déesse de la fertilité, Diane chez les Romains. Nous l'avions dit, elle est grandement vénérée à Éphèse. C'est là qu'elle avait son grand temple, une des 7 merveilles du monde antique. Ce grand temple avec ses 127 colonnes. À vrai dire, c'était la plus grande construction du monde grec de l'époque. On a découvert les ruines de ce temple, temple qui a été détruit par les Goths en 262 après Jésus-Christ, et dans des fouilles au 19e siècle, il a été découvert en 1869. Et c'est là, en découvrant les ruines de ce temple, que l'on a pu vraiment prendre la dimension de la grandeur de celui-ci. 127 mètres de long, 72 mètres de large, 60 mètres de haut. Nous avons vu aussi la dernière fois l'influence du culte d'Artémis dans tout le monde romain, pas seulement à Éphèse, pas seulement dans cette partie de l'Asie, mais dans tout l'Empire romain. Influence du culte d'Artémis en particulier au travers de ce qu'on appelait les 6 formules d'Éphèse, Ephesia Grammata, très connue à l'époque. Ce sont les inscriptions qui étaient gravées sur la statue d'Artémis, sur ses pieds, sur sa ceinture et sur sa couronne. On recopiait ces inscriptions sur toutes sortes de supports, on les mettait dans des petits récipients, on les portait au cou comme des allumettes, des amulettes. Notre texte ne parle pas de cela, ça c'est le contexte. Par contre, il parle de petites reproductions du sanctuaire d'Artémis en argent qui devait sans doute être utilisé comme des porte-bonheur. C'est donc ainsi qu'un certain Démétrios, orfèvre dans ce commerce des sanctuaires en argent du temple d'Artémis, soulève ses confrères, soulève les ouvriers qui exerçaient le même genre de métier, il le soulève en argumentant la perte considérable de gains liés au progrès de l'Évangile. Et très vite, l'émeute se répand. Elle se répand comme une traînée de poudre. Et bientôt, toute la ville est en émoi. Démétrios a su toucher les cordes sensibles. Et la première corde qu'il touche, c'est le portefeuille, en évoquant donc ces pertes considérables que nous trouvons dans ces versets, en particulier où il est question de gains considérables. Il est question de la prospérité, de leur prospérité qui dépend de cette activité. La deuxième corde sensible qu'il va toucher, c'est leur honneur, leur réputation. Il évoque le discrédit que l'Évangile jette ainsi sur leur profession. Cela risque non seulement de jeter le discrédit sur notre profession, dit-il, et puis, troisième corde sensible, la corde de la religion, et là il évoque le discrédit jeté sur le temple de la grande déesse Artémis, le dépouillement, dit-il, de son prestige. C'est la fin de ce verset 27. C'est donc avec ces arguments que Démétrios a agité la foule, a su rassembler la foule derrière lui. Et rapidement, celle-ci entre en ébullition et elle se précipite dans le théâtre de la ville, au cri de « Grande est l'Artémis des Éphésiens ». Le théâtre a lui aussi été découvert par des fouilles archéologiques et on a pu compter que ce théâtre pouvait asseoir 26 000 personnes, ce qui donne la grandeur de ce lieu. La foule hystérique va au théâtre, mais elle n'y va pas seule. Elle emmène avec elle deux compagnons de Paul, dont nous ne savons à vrai dire pas grand-chose, Aristarque, qui vient de la ville de Thessalonique, et puis Gaïos, qui vient sans doute de la ville de Derbé. Paul, lui aussi, veut se rendre au théâtre, mais des disciples vont l'en empêcher. Ils ne le lui permettront pas. C'est ce que nous avons lu au verset 30. Et puis, il faut ajouter à cela le fait que certains asiarques, c'est-à-dire des hauts fonctionnaires de la province, des fonctionnaires qui présidaient au culte provincial de l'empereur de Rome, ces asiarques, amis de l'apôtre Paul, vont aussi le supplier de ne pas se rendre au théâtre. C'est le verset 32. La confusion est totale. Et le texte dit que les uns criaient une chose et les autres en criaient une autre. Et puis le texte donne cette précision assez incroyable au verset 32 que la plupart des gens réunis ne savaient même pas pourquoi ils étaient réunis. Je dis incroyable, mais c'est quand même un constat qu'on peut peut-être parfois faire encore aujourd'hui dans certains mouvements de foule. Au milieu de cette confusion, un homme est désigné comme porte-parole. Porte-parole de la communauté juive. Communauté juive qui souhaitait sans doute se dissocier de l'apôtre Paul et de ses activités, afin d'éviter de subir le même traitement que les chrétiens. Et ce porte-parole, un certain Alexandre, va se faire chahuter une fois que la foule va reconnaître qu'il est juif. Et pendant 2 heures, dit le texte, tous se mettent à crier d'une seule voix, « Grande est l'Artémis des Éphésiens ». Il faut noter que déjà à l'époque, nous avons des traces de pogroms que les Juifs ont eu à subir dans certaines villes de l'Empire. Ce n'est pas quelque chose juste du XXe siècle. Mais déjà à Alexandrie, à Antioche de Syrie et d'autres villes encore, les Juifs ont eu à subir des persécutions malgré la protection de Rome. Finalement, et j'arrive au bout de ces éléments du texte, c'est le secrétaire de la ville qui va parvenir à ramener le calme. Et que fait-il pour y arriver? Il évoque le risque que la ville d'Éphèse soit accusée de sédition. Accusée de sédition, bien évidemment, par Rome. En effet, Éphèse était une ville libre de l'Empire. Une ville que Rome laissait tranquille tant qu'il n'y avait pas de problème, tant que tout se passait bien. Mais si le bruit d'une émeute de cette ampleur parvenait aux oreilles de Rome, Rome pouvait y voir une sédition, un danger, un signe que les autorités locales n'étaient plus capables de contrôler la situation, et le risque était donc que Rome envoie un détachement militaire et prenne le contrôle militairement de la ville. Et c'est ce raisonnement-là qui va calmer la foule. C'est ce que nous avons dans ces versets que je ne vais pas relire. C'est ce raisonnement-là, d'autant plus que la foule rassemblée ce jour-là dans le théâtre ne représentait pas une assemblée légale convoquée selon les règles. Tout ça, nous le trouvons dans les derniers versets. Sous l'impulsion du secrétaire de la ville, la foule a alors compris que si les Romains venaient, ce n'était pas juste les orfèvres qui auraient quelque chose à perdre, mais toute la ville. Et c'est ainsi que le calme revient et que la foule se disperse. Je relis juste le verset 40. « Nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, car il n'existe aucun motif qui nous permette de rendre compte de cet attroupement. » Après avoir dit cela, il renvoya l'assemblée. J'aimerais donc maintenant, après avoir largement posé les éléments du texte, tirer quelques applications pour notre vie, nos vies. Et la première concerne nos projets liés à l'Évangile. L'apôtre Paul semble avoir été quelqu'un qui avait toujours des projets en tête. Il était quelque part, mais il savait déjà où il voulait aller. Je ne parle pas ici des projets personnels, il en avait certainement, mais je parle ici en particulier des projets en lien avec l'Évangile. À peine Paul a-t-il fini de vivre les choses extraordinaires que nous avons évoquées dans la ville d'Éphèse, tous ces miracles que nous avons vus la dernière fois, qu'il pense déjà, et peut-être y pensait-il déjà depuis un certain temps, qu'il pense déjà à la prochaine étape. Nous l'avons lu, il a le projet de retourner à Jérusalem, en passant par la Macédoine, c'est-à-dire le haut de la Grèce, et puis l'Achaïe, et puis donc retour à Jérusalem, et puis il a le projet, un jour, d'aller à Rome. Alors bien sûr, c'était l'apôtre Paul. Et nous ne sommes pas, personne parmi nous n'est l'apôtre Paul. Dieu lui avait confié une mission unique, il faut le reconnaître. Il avait été appelé à être l'apôtre des païens. Mais qu'en est-il de nous? Si la mission que Dieu nous confie est différente, et elle l'est, elle n'en est pas moins importante. Nous aussi, nous sommes appelés à être les témoins du Christ, ici et peut-être pour certains d'entre nous, plus loin et peut-être même jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu ne nous sauve pas pour que nous jouissions égoïstement du salut qu'il nous offre, mais pour que nous le partagions, pour que nous partagions notre foi, pour que nous partagions autour de nous la bonne nouvelle de l'Évangile, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ et offert gratuitement à quiconque croit. C'est pourquoi, je le crois, il faut que nous aussi, nous ayons des projets pour le Seigneur, nous fassions des projets en lien avec l'Évangile, des objectifs que nous souhaitons atteindre afin d'entrer pleinement dans cette mission que le Seigneur nous confie. Est-ce le cas? Est-ce que je me suis fixé? Est-ce que je me fixe des objectifs à atteindre dans ma vie spirituelle, dans cette mission que le Seigneur me confie, que le Seigneur nous confie? Et j'aimerais nous encourager ce matin à considérer la vie chrétienne ainsi et à réfléchir dans cette perspective des objectifs que l'on peut se fixer pour faire avancer le royaume de Dieu. Alors pourquoi ne pas se fixer, par exemple, un objectif tout simple pour cette semaine, celui de partager ma foi avec une personne? C'est quand même pas énorme comme objectif. Pourquoi ne pas se donner ce défi? Pas deux personnes, pas cinq personnes, pas dix, une personne. Une seule personne. Ça devrait pouvoir être à notre portée. Il est beaucoup plus probable que cela se passe cette semaine si j'ai le désir d'y arriver, si je me fixe cet objectif, plutôt que si j'attends que l'occasion se présente et que je la saisisse, peut-être, si je la remarque. Chers frères et sœurs, qui sait ce qui se passerait dans nos vies et dans notre Église, dans nos Églises, si nous prenions tous de tels engagements, semaine après semaine? Je crois que bientôt, il faudrait construire un autre bâtiment. Cette première application en appelle une autre dans la foulée. Elle concerne la souplesse dans les objectifs que nous nous fixons. Nous l'avons dit, Paul projette d'aller à Rome. Il souhaite aller à Rome. Il ira à Rome. Mais il n'ira pas comme il le pensait. De retour à Jérusalem, nous le verrons plus loin dans notre série, il sera arrêté. Il va être emprisonné pendant de nombreuses années à Jérusalem, à Césarée. Et puis, il va faire appel à César et il sera envoyé à Rome pour y être jugé. Dire que nous devons nous fixer des objectifs liés à l'Évangile, en lien avec l'Évangile, ne veut pas dire que nous ne devons plus laisser le Seigneur nous conduire ou nous réorienter parfois, parce que les objectifs que nous nous étions fixés sont peut-être bons, mais ne sont pas ceux que le Seigneur veut pour nous à ce moment-là. C'est toujours sa volonté qui est la meilleure, même quand nous ne la comprenons pas. Parfois, la nôtre coïncide avec la sienne, mais parfois, il arrive aussi que Dieu nous redirige, que Dieu nous réoriente et que donc nous n'atteignions pas l'objectif que nous nous étions peut-être fixé, ou alors que nous l'atteignions mais par un autre chemin. Il faut alors de la souplesse pour laisser le Seigneur nous réorienter. Il faut aussi de l'humilité pour cela, l'humilité de laisser le Seigneur le faire et puis l'humilité de refixer de nouveaux objectifs sans peut-être s'acharner sur les anciens. La troisième application que je voudrais faire concerne l'opposition qui peut exister quand nous annonçons l'Évangile, quand nous faisons des projets pour Dieu, quand nous cherchons à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour le Seigneur. Annoncer l'Évangile, témoigner de sa foi, peut générer, nous le savons, de l'opposition, de la persécution. Le livre des Actes regorge d'exemples, et nous en avons déjà considéré plusieurs dans notre série. Cependant, si notre témoignage peut provoquer de l'opposition, ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas nécessairement le cas. Attention donc à ne pas faire de l'opposition le critère suprême de notre fidélité, de notre piété. Ceci dit, si le lien n'est pas systématique, il existe néanmoins. Et c'est la raison pour laquelle il est toujours légitime et nécessaire de se poser des questions s'il n'y a jamais d'opposition dans ma vie, d'aucune sorte, à cause de ma foi, à cause de l'Évangile. Je dois me poser la question du pourquoi, si cela est le cas. Est-ce que je témoigne véritablement de ma foi ? Est-ce que ceux qui me côtoient savent que je suis chrétien, disciple de Jésus-Christ ? Si je témoigne, est-ce que mon témoignage a du goût ou bien est-il insipide ? Si je témoigne, est-ce qu'il y a des choses que je ne dis pas, que je n'ose pas dire ? Sans tomber dans les extrêmes, dans la recherche du martyr et de l'opposition à tout prix, il est bon que nous nous souvenions des paroles de Jésus, paroles qu'il leur a laissées quelque temps avant de les quitter. Je lis dans l'Évangile de Jean quelques versets. « Si le monde vous déteste, dit Jésus, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde serait ami de ce qui lui est propre. Si le monde vous déteste, c'est parce que vous n'êtes pas du monde, alors que moi, je vous ai choisi du milieu du monde. Souvenez-vous de la parole que moi, je vous ai dite. L'esclave n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais tout cela, ils vous le feront à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Et à la fin du chapitre suivant, nous lisons encore « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous connaissez la détresse, les tribulations, mais courage. Moi, j'ai vaincu le monde, dit Jésus. » Cette réalité de la persécution, de l'opposition à l'Évangile, m'amène à une autre application qui est le prolongement de ce que nous venons de dire. Et cela concerne la clarté dans notre témoignage. L'annonce de l'Évangile, le témoignage de notre foi doit être clair, doit être compréhensible, doit être lisible par ceux qui nous entourent. Si nous devons le faire avec sagesse, et nous devons le faire avec sagesse, nous devons aussi le faire en vérité et en clarté, sans dépouiller notre message de tout ce qui peut susciter l'opposition. Il y a ainsi aujourd'hui bien des évangiles qui n'ont pas de saveur. Souvenons-nous ici que la croix que nous avons chantée, la croix, le message de la croix est toujours un scandale. C'est une folie pour les hommes. C'est ce que Paul écrit dans sa première lettre aux Corinthiens. Mais souvenons-nous au même temps que ce même message est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il faut pour cela que notre annonce, notre témoignage soit clair, limpide et sans détour, avec sagesse et avec vérité. Et nous pouvons noter ici que c'est ce que l'apôtre Paul faisait. Il disait ce qui devait être dit. Dans notre texte, nous l'avons lu au verset 26, il a le courage, essayons d'imaginer, il a le courage de dire à ce peuple idolâtre que leurs dieux ne sont pas des dieux. C'est facile à lire, hein ? C'est facile à dire ici. Mais à Éphèse, ça devait être quelque chose. Et puis on voit cette foule incontrôlable. Paul appelait un chat un chat. Son annonce de l'Évangile était précise, sans détour. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut tout dire et dire n'importe quoi et le dire n'importe comment. Je l'ai dit avec sagesse. Il y a un temps pour toute chose. Et c'est vrai aussi dans notre témoignage. C'est peut-être pas la peine de commencer à parler de l'enfer et du jugement de Dieu. Il y a peut-être d'autres manières de commencer à parler de l'Évangile. Tout n'a pas besoin d'être dit la première fois. Il faut aussi que le Seigneur nous conduise et nous donne sa sagesse. Être fidèle, ça ne veut pas dire se mettre tout le monde à dos. Parce qu'au final, se mettre tout le monde à dos ne fera pas avancer la cause de l'Évangile. Alors ce point m'amène à parler encore d'un avant-dernier point qui concerne les amitiés que nous pouvons avoir avec des non-chrétiens. La preuve que Paul ne se mettait pas tout le monde à dos et qu'il devait donc avoir aussi du tact quand il présentait l'Évangile, c'est qu'il avait très souvent de très bonnes relations avec des gens qui ne se convertissaient pas. Nous avons vu dans notre texte comment des asiarques, ces hauts fonctionnaires de l'époque, le texte dit que c'était des amis de Paul, sont venus à son secours, ont pris sa défense. Cela veut dire que Paul savait cultiver des relations en dehors de l'Église. Et je crois que nous aussi, nous devons y travailler, dans un équilibre bien évidemment. Nous le savons, nous l'avons lu dans ces paroles de Jésus, nous ne sommes pas du monde, très bien. Mais nous sommes néanmoins appelés à vivre dans le monde. Et c'est là, dans le monde, que Dieu nous appelle à être lumière du monde et celle de la terre. Pas forcément dans l'Église, mais dans le monde. Dans l'Église aussi, mais dans le monde en premier. Là où le Seigneur nous place. Un dernier point. Je termine avec la question de l'argent comme j'ai commencé. Nous avons vu le rôle de l'argent dans notre récit. Nous savons que évangile et argent ne font pas toujours bon ménage. Le livre des Actes le souligne à plusieurs reprises. Il souligne comment l'appât du gain peut être un véritable obstacle à l'évangile. Il y a l'exemple de Judas au chapitre 1er, puis au chapitre 5 c'est l'exemple d'Ananias et Saphira. Et puis au chapitre 8, c'est Simon le magicien. Au chapitre 16, ce sont les maîtres de l'esclave libéré. Et puis notre texte. Attention cependant à ne pas diaboliser l'argent. Parce que l'argent n'est qu'un moyen. L'argent n'est qu'un moyen, mais il peut devenir un maître. Et Jésus a dit, et vous connaissez cette parole, que l'on ne peut pas servir à la fois Dieu et Mammon. Mammon étant une sorte de personnification de l'argent. La petite histoire du début le soulignait à sa manière, soulignait combien il est facile de faire des compromis pour de l'argent. Je le redis, ce n'est pas l'argent en soi qui est un problème. Le problème, comme le dira Paul à Timothée, c'est l'amour de l'argent. C'est là le problème, l'amour de l'argent. Et Paul écrit à Timothée que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Tous les maux, dit-il. Le problème, c'est bien tout ce que je suis prêt à faire ou à ne pas faire pour de l'argent. Et cette réalité, nous pouvons tous la vérifier au quotidien, dans l'histoire de notre monde, dans nos actualités jour après jour, et parfois peut-être même dans notre cœur. Et c'est la raison pour laquelle nous devons être vigilants et toujours veiller, comme l'Écriture nous y exhorte, à notre cœur, plus que sur toute autre chose. Et nous poser les questions suivantes. Quel est mon rapport à l'argent ? Est-il à mon service ou suis-je à son service ? Est-il uniquement à mon service ou bien aussi au service de l'Évangile au travers de ma vie ? Est-il à mon service ou bien est-il mon maître ? Je vous invite à écouter une dernière parole. Après toutes ces exhortations, elle est de la plume de David. Nous la trouvons dans un psaume très connu. Alors je l'ai mis en français courant. Ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on a l'habitude de l'entendre. Mais il y a une traduction qui est intéressante dans cette version-là. Je lis ce dernier texte. « Ô Dieu, regarde jusqu'au fond de mon cœur et sache tout de moi. Mets-moi à l'épreuve, reconnais mes préoccupations profondes. Vois bien que je n'ai pas adoré de faux dieux. Et conduis-moi sur le chemin qui a toujours été le tien. Amen. » Je vous invite à quelques instants de silence.